l'étrange beauté du quotidien. Écoutez avec les yeux les vies extraordinaires de gens ordinaires.
Après une petite pause qui vous aura permis de réentendre Gwen et Pierre-Louis, et il manque, me voici de retour avec un nouvel invité. Et si vous saviez, chères auditrices, comme le rendez-vous d'aujourd'hui me met en joie. Parce que c'est la jeunesse qui est face à moi. Et pas n'importe laquelle. Celle un peu hyperactive, celle curieuse de tout, celle qui ne dit pas amen à tout. Celle qui vit dans un monde anxiogène, celle que je trouve bien maltraitée par notre société et que l'on n'entend pas beaucoup, contrairement aux apparences et à ce que disent ceux qui pensent à sa place. Oui, j'ai cette jeunesse en face de moi. Ça m'arrive assez régulièrement dans cette émission au demeurant. Mais c'est parce que j'aime quand elle nous fait éclater de rire, quand elle nous pousse dans nos retranchements, quand elle nous fait voir plein de trucs sous un œil nouveau et quand elle nous en apprend tout un tas de trucs. N'en déplaise à ces messieurs-dames bienséants qui croient encore mieux savoir, mieux faire, mieux diriger, mieux travailler, mieux. Il faut les voir pourtant s'endormir dans les rangs de l'Assemblée nationale, ne pas connaître le prix d'une baguette ou d'un ticket de métro, abuser de leurs avantages, que dis-je, de leurs privilèges, car oui, ceux-là ont vraiment des privilèges. Il faut les voir n'avoir pour la plupart jamais travaillé. Mais qui sont-ils pour juger notre jeunesse sans arrêt ? Oui, je sais, je m'emballe un peu, mais ça m'insupporte vraiment. Parce que je le redis, moi, je l'aime notre jeunesse, et je ne sais pas si j'aurais bien vécu mes 20 ou 25 ans en 2025. Bref, tout ça pour vous dire que je suis vraiment heureuse d'accueillir dans l'étrange beauté du quotidien, Jules, mon nouvel invité. Bonjour Jules et bienvenue à toi.
Bonjour.
Tout d'abord, pour que les auditeuristes sachent à qui ils ont affaire, peux-tu nous dire en quelques mots qui est Jules Simon ?
Qui est Jules Simon ? Très bonne question. C'est un jeune homme de 24 ans. Qui travaille dans le milieu de la restauration en tant que serveur. Voilà. Un petit breton de naissance à Lorient, exactement, et de parents bretons. Voilà, peut-être un peu chauvin sur les bords. Et puis, comme tu l'as dit, très hyperactif, très curieux, plein de choses. Voilà.
Le principe de cette émission est toujours le même. Jules est là pour nous parler de son histoire, de ce qu'il ravit ou de ce qui le fait avancer, de ses doutes peut-être aussi. Et cela à travers deux photos et deux morceaux musicaux. La première photo et le premier morceau ont été choisis par lui. La deuxième partie de l'émission sera peut-être plus déconcertante pour notre invité puisqu'elle concerne mes choix à moi. Mais je vous propose de démarrer tout de suite avec la photographie de Jules. Jules, tu l'as déjà sous les yeux et je vais d'abord te demander de la décrire le plus précisément possible afin que les auditeurs, les auditrices puissent l'imaginer au mieux.
Très bien. Comment ? Alors cette photo, c'est celle d'un... C'est moi qui la prends déjà pour commencer. C'est celle d'un ami à moi lors de ma soirée d'anniversaire de mes 24 ans, le 1er octobre dernier. Et donc nous sommes en terrasse sur une place emblématique à Lorient. Voilà, et mon ami est tout à fait joyeux et tire la grimace en tenant les bouteilles de vin que nous venons de boire.
Et pourquoi avoir choisi précisément ce portrait ? Que raconte-t-il ?
Alors il raconte plein de choses. Déjà c'est un clin d'œil à cet ami qui m'est cher. C'est un clin d'œil aussi à la joie de vivre, au bon moment passé ensemble. Et puis aussi, elle parle de ma vie, elle parle des terrasses, des bars, des restaurants, de consommer des bons moments en consommant plein de bonnes choses avec ses copains. Voilà, ça m'évoque de la rigolade, des sourires, ça m'évoque énormément de choses, mais beaucoup de plaisir en tout cas.
Et alors, on en parlait justement avant de démarrer l'émission. Moi, j'étais persuadée que c'était une photo de toi. Or, et non, ce n'est pas un portrait de toi, mais donc de ton meilleur ami. Après, je vais quand même réussir à te poser les questions parce que, comme tu l'as dit aussi, ça aurait pu être toi. Et franchement, vous vous ressemblez. Enfin, je trouve vraiment, je ne sais pas si c'est la mimique ou la couleur des cheveux, etc. Donc, on n'est pas face à une photo de toi, on est face à une photo de ton meilleur ami. En plan rapproché, je crois qu'on dit le plan taille quand on veut se la péter un peu. Alors j'ai cru pendant quelques secondes que tu étais devant le café du port de Lorient et après je me suis dit mais oui.
Eh bien c'est un peu plus loin dans la rue, c'est la crêperie du port, bien essayé.
Ok, parce que justement Je me disais, ben non, il n'a pas cette toute petite fenêtre en haut à droite, il me semble, le café du port, et surtout, il ne fait pas crêperie.
Tout à fait, tout à fait.
Et après, je me suis dit, tu es en Bretagne, dans le Morbihan même, et j'en mets ma main à couper. Et là, j'allais dire, ou presque, mais je peux la mettre à couper, puisque tu l'as dit, c'est aussi à Lorient.
Tout à fait. Pour, si je puis me permettre, on va les citer, parce qu'ils viennent d'ouvrir leur établissement, c'est des copains qui ont ouvert le restaurant Le Grain Bleu, voilà, juste en dessous du mythique Westport.
Ok, et pas loin donc du Café du Port.
Et donc enfin, Lorient tout en haut pas... de la rue du Café du Port, voilà.
Ok, super. Et alors moi je me demandais, j'arrivais pas à savoir si tu étais en fin de service de restauration avec tes collègues, puisque j'ai cru que c'était toi, hein, ou si tu étais en début de soirée avec des potes. Tu l'as dit, c'est plutôt le début de soirée avec des potes ou milieu de soirée avec des potes. En tout cas, dans les deux cas, bon, c'est pas toi qui fais le pitre. Et non. Moi, vraiment, je pensais que c'était toi, donc je te dis, tu fais le pitre, l'amuseur, avec plusieurs bouteilles de vin et un verre à moitié rempli dans les mains. Et j'avais la sensation de presque un personnage, d'où ma première question. As-tu la sensation de parfois être dans un rôle comme en représentation ? Et c'est pas grave, finalement, que ton pote, ce soit ton pote en photo et pas toi, parce que ça raconte quand même quelque chose de cette chose-là. Est-ce que toi, tu te sens parfois en représentation, un peu dans un rôle ?
Je vais dire que oui, oui, oui. En fait, je pense qu'on joue constamment en fait, un rôle en société. J'ai vu un humoriste le week-end dernier à Nantes qui dit le seul moment où on est vraiment nous-mêmes, c'est quand on fait popo. Voilà. Sinon, il y a constamment des gens autour de nous, des gens qui nous regardent, qui nous jugent ou non. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, on est beaucoup porté sur le paraître, le jugement. Et c'est très difficile de s'en détacher. Enfin, ça fait... Ça fait 3-4 ans que je fais tout pour. Et voilà. Et du coup, je ne sais plus si je suis moi-même ou si au contraire je joue un rôle. Mais en tout cas, là, pour en revenir à la photo, forcément, mon ami, et j'aurais fait exactement la même chose, joue un rôle puisqu'il est face à une caméra. Donc voilà, il y a un œil, si ce n'est des centaines d'œils, braqués sur lui.
Et alors, à ton avis, le fait d'être en représentation comme ça la plupart du temps, presque tout le temps, est-ce que c'est une façon de cacher une part de toi ou de nous en général plus sombre, ou alors est-ce que c'est parce que on est tous multiples, comme si on était à plusieurs facettes ?
Très bonne question.
Ah bon, on n'est pas obligé de répondre à toutes mes questions. Hein.
Moi, ma vision des choses serait de dire qu'on a plusieurs facettes, mais ces facettes sont... travailler, sculpter, peaufiner au fur et à mesure de la vie et à différents moments de notre vie on va jouer tel ou tel rôle. Je pense surtout à l'adolescence, un moment très fondateur on va dire, et forcément bah, tu te crées des personnages dans ta tête et t'essayes de te dire tiens, faut que je ressemble à ci, faut que je ressemble à ça. Et là, arrivé à 24 ans, on commence à un peu plus se trouver, même si j'aime bien dire qu'on ne se trouve jamais. Parce que sinon, on se perdrait si on se trouvait vraiment.
Et c'est joli, ça.
Merci. Jules Simon, bientôt dans les bacs. Donc je pense que... Ouais, la deuxième réponse. Je pense plus qu'on a plusieurs facettes.
On est multiples. Il faut juste
que les gens apprennent à les assumer partout.
Ça, c'est plus délicat. Est-ce que toi, pour toi, c'est quelque chose qui est difficile à faire ou pas du tout ? Toi, vraiment... tous les personnages que tu es, tu les assumes à 200%.
À 200%, c'est compliqué. Mais là, tu vois, je suis venu à l'université Rennes 2, qui est une grande université réputée en France. Je suis venu à la radio et pourtant, bah, j'ai mis un jogging. Je m'en fiche du regard des autres. Même si, en même temps, je sais que j'en joue un peu. Voilà, on va pas se mentir. Je sais que ce côté m'en foutiste, ah, c'est un peu aussi la carte que j'ai essayé de jouer pendant des années quand j'étais notamment au lycée. Ouais.
C'est un peu une façon de te protéger.
C'est aussi une façon de me protéger, voilà.
Et on parlait donc du fait qu'on soit plusieurs facettes, un peu comme une boule à facettes, qui m'amène aussi à revenir sur la photo pour parler avec toi de ton goût pour la vie la nuit. On va pas se mentir, tu l'as dit en plus, tu aimes faire la fête, tu es du genre bon vivant même, non ?
Clairement.
Ouais. Oui, et qu'est-ce qu'elle t'apporte de plus, cette vie, la nuit ?
Ah, ça, c'est une belle question aussi. En fait, la nuit, ce que j'aime profondément dedans, et c'est pour ça que j'y travaille comment depuis 2 ans aussi. Ce que j'aime profondément, c'est que les gens, ils sont tout autres que la journée. Vraiment, quand le soleil se couche, les gens se dévoilent. Déjà, il y a cette ambiance un peu plus sombre. Du coup, on voit des fois un peu moins les gens. Et puis, les gens se révèlent, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, il y a aussi, on est en France, donc il y a beaucoup de consommation d'alcool, on va pas se mentir, et d'autres substances. Et je pense que les gens se livrent beaucoup plus, du coup. Voilà, moi j'ai des discussions tard la nuit, en buvant le thé jusqu'à 8h du matin, encore lundi dernier, avec une jolie fille. On a discuté pendant des heures, et on l'aurait jamais fait de jour, parce qu'on aurait fait un ciné, parce qu'on aurait fait quelque chose. Mais voilà, la nuit, c'est de l'amusement, c'est de la fête, mais c'est aussi des moments où on se dit des choses qu'on ne dit jamais de jour. Voilà.
Et alors, pour terminer sur cette photo, moi, elle me donnait envie d'en savoir un peu plus sur ton parcours professionnel, parce que je reste sur l'idée que j'ai cru que c'était toi. Hein. Et, ouais. Et j'aimerais bien qu'on en parle, parce que je crois qu'à ce niveau-là, tu as un côté un peu survolté, un peu hyperactif, que tu essayes toutes les formations possibles et imaginables, et dans des domaines vraiment variés. Et ça m'intéresserait de savoir si c'est depuis toujours, ou est-ce que c'est récent, enfin, et puis ton parcours même, concrètement. Est-ce que tu n'es que serveur? Parce que je crois que tu fais d'autres formations, t'as envie d'essayer plein de trucs, quoi.
Ouais, alors du coup je vais répondre à la deuxième question en premier. Est-ce que c'est depuis tout petit? Oui, depuis toujours j'ai envie de faire des centaines de choses. Voilà, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais il n'y a jamais eu un moment de ma vie où je me suis dit je vais faire ça plus tard, et c'est resté le cas. Voilà, ça dépend des périodes, il y a toujours des métiers différents qui ressortent. Parce que je suis quelqu'un de très curieux et qui m'intéresse beaucoup aux autres. Et du coup, quand j'apprends les métiers qu'ils font, ça a l'air trop bien et tout. Et la première question, c'était du coup, qu'est-ce que je fais?
Ton parcours plus professionnel, mais aussi toutes les formations que tu as pu essayer envies même que tu as pour plus tard.
Pour plus tard, très bien. Et ben, en fait, je suis sorti d'un bac STL, donc sciences techniques de laboratoire du lycée. Je voulais faire de la biologie marine à ce moment-là, voilà. Alors que tout le long du lycée, je voulais faire kinésithérapeute. Et comme d'hab, ça change. Après, donc, je suis parti finalement faire les compagnons du devoir en tant que plombier à Bayargues, donc à côté de Montpellier. Et j'étais en entreprise à Rennes. Ce qui m'a permis de découvrir la France grâce à cette alternance. C'était vraiment très très bien.
Et c'est assez dur en plus de rentrer chez les compagnons? Non,
non? Non, non, non. Enfin,
je trouve que ça a une.
Rien n'est difficile quand on se donne les moyens, c'est tout, quoi.
Ouais. Voilà. Pas forcément ma vision du truc. Mais oui, en tout cas, tu t'en es donné les moyens à ce moment-là.
Ouais, voilà, c'est ouais. Ça. Bah, j'ai mis une belle chemise, un nœud de pape et une paire de pompes en cuir. Et j'ai fait en sorte de gérer mon entretien, tout simplement.
Donc, il y a eu les compagnons du devoir.
Il y a eu les compagnons, exactement.
Y a eu Rennes.
Pendant 2 ans, donc entre Rennes et Bayargues. Et après finalement j'ai arrêté les compagnons au bout de 2 ans parce que je me suis blessé au dos, donc continuer dans le métier du bâtiment c'était pas facile. Et puis à ce moment là en plus j'ai rencontré une jolie fille qui fait que je me suis installé à Rennes avec elle, et c'est là que j'ai découvert le milieu de la restauration. Je me suis plongé dedans et j'ai kiffé à fond les ballons, mais il y a eu des moments de pause où j'ai arrêté dans une entreprise ou pendant que j'étais en vacances, et je me disais mais Jules, la restauration, c'est marrant, mais tu peux pas faire ça de ta vie. 5, 10, grand max, mais tu peux pas faire ça toute ta vie. Et donc, je me suis dit, mais Jules, faut que tu bouffes des formations. Parce que quand j'étais chez les compagnons, en fait, je suis allé chez les compagnons juste pour faire le compagnonnage. Mais en vrai, la plomberie, ça m'intéressait pas tant que ça. Il y a vraiment l'entièreté des métiers. J'aurais pu faire charcutier, fromager, vigneron, comme couvreur, charpentier, enfin tous les métiers m'intéressaient. C'est la plomberie qui est sortie du lot le jour où j'ai dû me décider, mais voilà, je me suis promis que en fait, le principe des compagnons étant se former dans différents métiers tous les 6 mois, 1 an, changer de ville, changer de formation, et bah, j'ai pris le pli des compagnons de voie et je me suis dit, ok, bah, tous les 1 an, 2 ans, il faut que je change de métier, de domaine et tout ça. Et donc là, ça fait 2 ans que je fais de la resto et je vais arrêter.
Et t'as pas fait d'autres formations entre-temps? Parce que si, ma petite oreille m'a dit que tu avais essayé d'autres trucs.
J'ai fait plein de formations. En fait, j'essaie de trouver des formations à court terme. Et parce que on nous parle depuis qu'on est tout petit à l'école de faire des études longues et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de diplômes qu'on pouvait obtenir en 2 semaines, en 1 mois, en 2 mois de formation. Malheureusement, c'est souvent des formations qui coûtent un peu cher, bien évidemment, sinon ce serait trop facile. Mais elles sont finançables par la région. Donc finalement, certaines sont gratuites. Et donc, pour revenir à ta question, grâce à ça, je me suis un peu formé dans les milieux de la santé, du sport et très récemment de la politique, parce que c'est un rêve de collégien de vouloir faire de la politique. J'ai été délégué chaque année, j'ai fait président du bureau des élèves au lycée. Et donc voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Et il y a une part de politique en moi que je vois beaucoup plus tard. Mais on m'a proposé une formation en septembre dernier. Et donc j'ai commencé à la suivre. Voilà.
Bien rempli tout ça déjà pour 24 ans.
Et ce n'est pas tout.
Et ce n'est pas tout. Vous êtes bien dans l'étrange beauté du quotidien. Nous sommes avec Jules et nous allons maintenant découvrir son choix musical, l'algorithme de Taizi.
L'homme est mauvais, l'homme est bon. L'homme est fier, l'homme est malin, l'homme est con. L'homme est arrivé sans rien, à part des milliards de questions sans réponse. D'abord il a trouvé le feu, de quoi pouvoir réchauffer la bouffée, l'eau froide. Les marmots par dizaines, on les laissait aux femmes. Puis l'homme a commencé à jouer aux armes. Il voulait conquérir le monde à léopard. Sur la planète il a dessiné des lignes. Du sang il en a fait couler des litres. Il a créé l'histoire en créant des livres. A découvert que la terre cachait des mines. Le fer, le cuivre, l'argent, le cobalt. Le coltan, l'or, l'or noir il est trop fan. Voiture, avion, bateau il se déplace. À part maison, villa il se déclasse. Les pigeons ne suffisent plus pour bien communiquer. Pour écrire des lettres, y'a plus le temps et y'a plus d'idées. Il s'est servi de ce qu'il y avait sous terre, il s'est servi du ciel. Il paye pour des conversations artificielles. Il veut voir ce qu'il peut pas toucher. Se débrouille pour tout faire sans avoir à bouger. Ordinateur et smartphone ont changé nos vies. Y'a plus qu'à travers l'écran que le monde est joli. L'homme s'est perdu dans le virtuel. Il a fait de la distraction un rituel. Des serveurs et des data retiennent tout ce qu'on fait. Il aimerait pouvoir encoder la vie humaine. Il alimente l'algorithme. Jamais, jamais rassasié. Vie privée devient partagée. Même si on sait que c'est malsain, on ne veut pas lâcher. Il sait où on va, ce qu'on mange et le son qu'on écoute. Il sait qui on voit et ce qu'on fait quand on a des sous. Il sait qu'on a des souvenirs, il s'en rappelle mieux que nous. L'homme ne réfléchit plus, il a un cerveau de secours. Tyrannique des rois, des chefs, esclaves, pyramides, prophètes, martyrs, tout le monde qui lapide, guerre de 100 ans chaque siècle, les peines passées, des femmes qu'on brûle pour leur sagesse, enfants sur des trônes, Napoléon gagne un tas de guerres. Amérindiens rayés de la carte, parce que l'homme blanc a besoin d'un tas de terres. Africains entassés dans des bateaux, mais c'était pas pour partir en croisière. L'Europe se partage le monde au bras de fer. L'Église a participé au calvaire avant de dissimuler ses affaires. Des commandements qui sont pas dans les 10, des génocides qui sont pas dans les livres, des rafales dans les villes, des dictateurs nourris au sac, ils font que ce que leurs parents décident.
L'homme est mauvais, l'homme est bon. L'homme est fier, l'homme est malin, l'homme est con. L'homme est arrivé sans rien, à part des milliards de questions sans réponse. D'abord il a trouvé le feu, de quoi pouvoir réchauffer la bouffée, l'eau froide.
Des marmots par dizaines, on les laissait aux femmes. Puis l'homme a commencé à jouer aux armes. Il voulait conquérir le monde à léopard. Sur la planète, il a dessiné des lignes. Du sang, il en a fait couler des litres. Il a créé l'histoire en créant des livres. A découvert que la terre cachait des mines. Le fer, le cuivre, l'argent, le cobalt. Le colt dans l'or, l'or noir, il est trop fan. Voiture, avion, bateau, il se déplace. À part maison, villa, il se déclasse. Les pigeons suffisent plus pour bien communiquer. Pour écrire des lettres, y'a plus le temps et y'a plus d'idées. Il s'est servi de ce qu'il y avait sous terre, il s'est servi du ciel. Il paye pour des conversations artificielles. Il veut voir ce qu'il peut pas toucher. Il débrouille pour tout faire sans avoir à bouger. Ordinateur et smartphone ont changé nos vies. Y'a plus qu'à travers l'écran que le monde est joli. L'homme s'est perdu dans le virtuel. Il a fait de la distraction un rituel. Des serveurs et des data retiennent tout ce qu'on fait. Il aimerait pouvoir encoder la vie humaine. Il alimente l'algorithme. Jamais, jamais rassasié. Vie privée devient partagée. Même si on sait que c'est mal, ça on ne veut pas lâcher.
Nous venons d'écouter L'Algorithme, morceau tiré de l'album du même nom et sorti en 2021. Morceau écrit et interprété par Taizi, rappeur d'Amiens, repéré à seulement 15 ans par le label YW et dont la créativité foisonne, plutôt hyperactif lui aussi. D'abord, comment as-tu découvert ce chanteur ? Cet artiste même, parce qu'il n'est pas
Très bonne question. Si, c'est sur un son. Je débutais chez Les Compagnons, donc 2020, après le Covid. Et c'était sur Instagram. Voilà, je me suis fait attraper par une pub. J'ai cliqué. Après, je suis allé sur YouTube écouter le son. Et j'ai pris une claque. C'est pas sur ce son-là, hein, c'est sur un autre son. Mais j'ai lâché une larme tout seul dans mon lit comme une grosse merde. J'ai fait, mais putain, mais il est trop fort ce mec. Et après, j'ai fait, mais en plus, il est jeune. Tout ça, je me suis renseigné sur le mec. Je vois, il a un an de moins que moi, de plus que moi seulement. Et je vois, ça fait plus de 5 ans, 6 ans qu'il rappe. Et j'écoute tout. Et pratiquement sur chaque morceau, je prends une claque, quoi. Du coup, il est top 3 dans mes écoutes H24. C'est génial.
Et pourquoi avoir choisi ce morceau précisément ? Que t'évoque-t-il ? Est-ce qu'il raconte quelque chose de ton histoire ?
Et le mot histoire, t'as tout dit, voilà. Non, je suis passionné d'histoire, j'adore ça, et il en parle beaucoup, et en plus il part vraiment de très très loin pour revenir à aujourd'hui. Moi, mon père, il dit une phrase beaucoup, qu'il emploie beaucoup, pardon, c'est il faut comprendre le passé, enfin il faut apprendre le passé pour comprendre le présent et préparer un futur. Et en fait, lui, vu qu'il prend, il fait exactement cette démarche-là, il explique le passé. Il explique le passé pour qu'on comprenne mieux le présent. Et moi, je trouve ça génial ce qu'il fait. Et en plus, c'est quelque chose de musicalement que j'adore. C'est quand au début, c'est un peu plus tranquille. Et la deuxième partie du texte est beaucoup plus énergique, on va dire. C'est quelque chose que j'affectionne beaucoup dans la musique.
Ouais, en effet, il y a une multitude de thèmes qui apparaissent et j'avais pensé à l'histoire, mais j'ai oublié de le dire. Mais moi, j'y vois évidemment qu'il est question de critique du monde virtuel, de notre addiction à tous ces outils technologiques. Mais pas seulement, j'y vois aussi le féminisme versus le masculinisme, ou le machisme, on va dire. Le chanteur y aborde également le thème de la violence, celui du pouvoir. Il y a aussi celui de l'histoire. Et effectivement, le fait d'avoir écouté, lu les paroles en même temps que j'écoutais le son, c'est impressionnant comment en quelques mots, il arrive à replacer, resituer la préhistoire, enfin, et comment tout a un sens. Et donc il y a aussi ce thème là et moi je voulais savoir, dans tous ces thèmes qu'il aborde, lequel résonne le plus pour toi, lequel t'as envie d'aborder là par exemple. Donc l'histoire, t'en as parlé un peu. Est-ce que t'as envie de nous parler plus justement de cette addiction aux outils technologiques, qui est quand même le thème principal, on va dire, avec l'histoire d'algorithme comme titre. Okay, est-ce que t'as envie de parler de l'histoire du pouvoir, de la violence, du machisme, de...
En premier lieu, moi j'aurais parlé de l'histoire, surtout l'histoire qu'on nous raconte pas à l'école. Voilà, moi c'est le point qui m'a le plus touché dans ce qu'il dit. C'est dans beaucoup de ses sons, il cite des faits historiques que moi j'ai pas vu en cours d'histoire, que j'ai la chance de connaître parce que je suis curieux et que j'ai des gens qui m'entourent qui sont intéressants, d'où il y a certaines choses que je connais. Et en fait, je me dis, tiens, il le dit dans un son, mais en vrai, moi je comprends ce que j'entends, mais je me dis, mais trois quarts de ma génération, ils comprennent même pas ce qu'il dit, le mec. Et parce que c'est pas dans nos cours d'histoire. Et moi, c'est ça, ce dont je viens de parler, c'est le manque de culture de ma génération.
Même de tout le monde, je crois que tu peux le dire.
De notre époque. Ouais. Oui,
ouais.
Totalement.
Ouais, plus d'une époque, je crois, effectivement.
Et en fait, ça rejoint aussi les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux nous bourrent d'informations, mais du coup, on retient rien. Et c'est pour ça que je voulais parler d'abord de l'histoire, et après, plutôt... du numérique.
Et c'est là où effectivement, tu vois, c'est pas qu'une histoire de jeunesse, parce que dans ce que tu dis, je me sens concernée. J'allais plus facilement chercher les informations, je retenais mieux les choses quand j'étais plus jeune, qu'aujourd'hui où effectivement on est matraqué, on a envie de tout savoir, mais on sait rien, on retient rien. Donc c'est pas que la jeunesse, justement, tu vois, celle que je disais à l'introduction. Qu'on critique facilement, mais... Et là, j'ai vu une information hier sur les septuagénaires, enfin, les seniors. Ils passent minimum 3 heures par jour sur les écrans.
C'est un fléau mais total. On est d'accord.
Ouais. Sauf qu'eux, on les critique moins, quoi. Mais...
C'est vrai. Bah, j'ai vu, moi, 2-3 émissions là-dessus sur les jeux mobiles. C'est les 40-50 ans les plus touchés, clairement, par les jeux mobiles. Mais moi, ça m'attriste. Je vois des copains. On est en soirée, encore hier soir. J'étais en soirée avec un copain. On était juste tous les deux. On s'est fait une bonne bouffe. Et des fois, je lui parlais. Et je lui dis, mais tu fais quoi sur ton tel? Et le mec, il est en train de jouer à un jeu vidéo. Je lui dis, mec, en fait, je comprends mieux pourquoi tu réponds à côté de la plaque à chaque fois que je te pose une question. T'es en train de geeker. Et pendant une demi-heure, quoi. C'est pas juste une minute. Et donc voilà. C'est terrifiant. Mais voilà, je suis qui pour combattre ce truc-là? Moi, ce que j'aimerais faire, voilà, c'est partager au plus possible, sensibiliser tout ça. Et ça passe par écouter de la bonne musique avec des paroles intelligentes. Et pas... j'allais citer des noms, mais... Il y a des gens bien moins intéressants, je pense, à écouter que t'as dit. Voilà.
Et par rapport à toi, tu te situes comment par rapport à ce fléau qui nous atteint tous? Parce que j'ai quand même l'impression que, comme tu viens de le dire, si tu partages vraiment un moment avec les gens, toi, tu ne vas pas être en train de faire deux choses en même temps.
Bah, j'apprends encore, hein. Je suis loin d'être parfait, de toute façon, on l'est jamais. J'essaye de faire ces deux choses différentes. J'essaye de faire qu'une chose à la fois.
Oui.
Déjà, quand je mange, quand je fume, je suis pas en train d'écouter de la musique à la limite, oui, mais un podcast, ok. Mais regarder un film en mangeant, t'apprécies pas vraiment ta bouffe. Tu bouffes trop parce que tu te rends même pas compte que t'as fini de manger. Du coup, tu continues de bouffer. Et ouais, c'est juste hyper malsain. Et puis, c'est ça en fait. On entend beaucoup ça en ce moment sur les réseaux, tout ça. Apprendre à apprécier l'instant présent. Mais c'est très très simple. Faut juste faire une chose à la fois.
C'est très simple et en même temps. Très compliqué.
Non, faut juste faire. Faut juste respirer et se concentrer à une seule tâche à la fois. Voilà.
En tout cas, toi, quand t'es avec tes amis, et t'arrives à décrocher, t'es pas tout le temps sur tes écrans.
Bah, moi, je suis un peu extrême, intense, et je passe pas par quatre chemins. Il y a des moments de ma vie où j'avais juste pas de téléphone, ou un téléphone à clavier. J'ai supprimé les réseaux aussi pendant des mois, des fois même des années. Ça fait du bien, de fou. Un téléphone, ça sert à appeler de base. Moi, quand je veux contacter quelqu'un, je l'appelle Et mes potes me disent, Jules, t'es chiant, envoie un message. Je dis, bah ouais, mes frères, c'est un téléphone, ça sert à téléphoner. Voilà où j'en suis dans ma rébellion contre le numérique.
Okay. Et du coup, tu voulais parler un peu de ça aussi avec cette chanson.
Ouais, ouais, carrément, ouais. Carrément, ça en parle. Et je pense que c'est hyper important. Voilà, c'est que les gens lâchent un peu le téléphone et en fait apprennent par les autres ou en lisant tout simplement. Voilà, mais moi je trouve la plus belle manière de s'instruire, c'est juste d'aller rencontrer des gens, discuter avec eux. Après, moi j'ai la chance d'avoir un certain entourage qui fait que je trouve les gens intelligents et intéressants. C'est pas la chance de tout le monde. Moi je comprends que voilà, il y a des gens, ils sont entourés de gens moins intelligents, ou en tout cas moins cultivés, pardon. Et du coup, c'est vrai que tu peux pas discuter histoire avec tout le monde, tu peux pas discuter politique avec tout le monde, tu peux pas discuter numérique avec tout le monde. Donc voilà, mais je pense que les gens, il faut qu'ils s'y intéressent, en t'écoutant toi, par exemple.
Voilà déjà la première partie de l'émission L'étrange beauté du quotidien écoulée. Le concept veut que maintenant nous partions d'une autre photo que j'ai cette fois-ci choisie et que tu ne connais pas, Jules. Je te la présente.
J'ai extrêmement peur.
Non.
Non, c'est faux.
Et le principe est le même que tout à l'heure. Tu vas nous la décrire avec le plus de précision possible en insistant sur les détails qui te semblent importants, qui t'évoquent le plus de choses, les couleurs par exemple, etc.
J'essaie de deviner où on est, mais je suis pas sûr, j'ai peur de dire une bêtise. Est-ce qu'on est à Nantes ?
Alors, vu comment je me suis plantée en début d'émission, t'as le droit de te planter. Hein.
Non, mais tu sais si c'est à Nantes ou pas cette photo ?
Non, c'est pas à Nantes.
Mais, j'aurais essayé.
Wow.
Mais c'est pas chez moi quand même. C'est à Los Angeles. Incroyable.
Los Angeles ! Ah, ça, j'avais jamais entendu.
C'est vrai ?
Non.
Ah, bah c'est parce que c'est une des meilleures villes du monde. Ok, bon, bah, je vais décrire la photo déjà, parce que les auditeurs ne l'ont pas. Donc c'est la photo d'un pont sur lequel il y a une voie ferrée, qui est prise elle-même depuis un pont piéton. Et donc on voit en arrière-plan le chantier naval, donc je suppose de Lorient, mais oui, j'aurais dû deviner direct. Et bah, ça aurait pu être Saint-Nazaire, Brest. Bref, donc merci pour le clin d'œil à Lorient. Et donc, mais oui, je suis con, connard en plus.
Mais c'est pour ça, mais oui.
Je suis bête, pardon. Bah, et en même temps, il a graffé partout. Donc,
Pour moi, celui-là, il est vraiment. Ouais, bref. Je l'avais jamais vu ailleurs.
Sur ce pont-là, il y a deux graphes, notamment un d'un graffeur très connu, comme en breton, qui s'appelle Connard. Et donc, voilà, il y a écrit en grosses lettres bien grasses, Connard avec un point d'exclamation. Et un peu plus loin, il y a marqué 420, voilà, qui est une grosse dédicace aux fumeurs de ouinges. Voilà, vous avez la ref.
Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que ça t'évoque ? Est-ce que tu ressens une émotion ? Bon, maintenant que tu sais que c'est Lorient, peut-être.
écoute, c'est très simple. J'ai pris ce pont avec le train en venant ici, déjà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux raconter de beau ? Ça m'évoque le graphe, tout ça, ça apporte à dehors. Ça me rapporte à des heures, des jours, des mois et des années passées dehors. Je suis quelqu'un de très peu casanier. Je passe beaucoup de temps dehors. Et donc, c'est vrai qu'il y a des moments à accompagner des potes graffés, à aller fumer un petit ouinge, au bord du Scorff, parce que c'est le Scorff que nous avons sous les yeux.
Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, hein.
Non, mais on peut fumer des joints de CBD, c'est légal, oui, je vous rappelle.
Voilà.
J'ai jamais dit que je fumais des choses illicites, attention. Et bien évidemment, fumer est mauvais pour la santé. Si vous fumez du CBD, fumez pur. Non, mais c'est le tabac qui rend accro et c'est lui la principale cause de mort, bien plus que les accidents de la route. Donc il faut en parler. J'ai pas les chiffres, mais je suis à deux doigts de les citer quand même. Donc voilà, puisqu'on parle de la mort, le train, non, c'est horrible, j'ai pas de ça.
Ça y est, on l'a perdu.
Non, pardon. Non, ouais, ça m'évoque plein de choses cette photo, mais voilà, je pourrais en parler pendant des heures.
Et bien justement, oui, là tu devines, du coup, maintenant que tu sais pourquoi je t'ai choisi ce cliché, on est à Lorient, ton lieu, ton endroit, tu l'as même dit en introduction, et ça me donne envie d'aborder deux thèmes différents avec toi. D'abord... Pourquoi es-tu attaché à Lorient en particulier, à ce coin-là de la Bretagne plus globalement ? Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce que tu ne trouves pas ailleurs ? T'as commencé à nous le dire un peu quand même.
En fait, Lorient, c'est une ville, déjà, il y a beaucoup de travail, il y a énormément de gens, très très différents. C'est ça que j'aime énormément à Lorient, je pense. La ville en soi, on le sait tous, elle est pas très belle, parce qu'elle a été reconstruite après la guerre, après avoir été détruite à 90%. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, elle a été rebâtie très vite et c'est moche. Mais par contre, voilà, il y a une certaine joie de vivre à Lorient qui est exceptionnelle. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a toutes les classes sociales qui se mélangent. Et ça, c'est un de mes points forts dans ma vie, c'est le fait de m'être moi-même mélangé aux classes sociales, parce que mes parents m'ont mélangé à plein de classes sociales différentes depuis tout petit. Et du coup, Lorient est la ville parfaite, parce que tu peux être au restaurant à côté d'un costard cravate et de l'autre côté de la table, je sais pas, il y a un smicard ou quoi que ce soit. Et c'est, moi, je trouve ça génial qu'on vive tous ensemble en cohabitation. Je trouve ça génial, ce mode de vie où on est tous ensemble. Voilà. J'affectionne beaucoup, ouais. Beaucoup Lorient. Après, tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a à Lorient et qu'il n'y a pas ailleurs.
Pour toi ?
C'est très simple. J'ai vécu un an à Montpellier, 2 ans à Rennes. Et le surf m'a terriblement manqué déjà.
Ah oui, il y a la mer, bien sûr.
Parce qu'il faut rappeler une chose à tout le monde, à l'entièreté de la France. Lorient est une ville portuaire de 5 ports. Et ce n'est pas le cas de toutes les villes en France. Je dirais même qu'il y en a très peu. Et donc voilà, on est tourné vers l'océan, que ce soit de manière militaire, que ce soit touristique, récréative, sportive, voilà. Donc voilà pourquoi j'affectionne beaucoup cette ville. Et puis en plus, elle est bloquée entre la mer et la campagne, donc les paysages sont magnifiques dès qu'on prend le temps de sortir de la ville. Voilà, tout simplement.
Et forcément, moi, j'aimerais bien que tu nous parles aussi un peu de ton enfance. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es Morbihanais de souche, tu es né à Lorient. Et ça donne quoi un gars de Lorient ? Quel enfant étais-tu ? Gars, enfant, quoi. Quel enfant étais-tu ? Est-ce que tu as 2 ou 3 anecdotes ?
Alors, il y a un petit truc qu'il faut préciser avant.
Oui, c'est pas tout à fait Lorient.
Voilà, moi, je suis né à Lorient, mais un an plus tard, après ma naissance, j'ai déménagé à Gestel, qui est à 12 minutes du centre-ville de Lorient. C'est juste à la sortie.
Un gars de Lorient quand même.
Mais je suis un mec de la campagne quand même. Je suis à 10 minutes de la ville, à 10 minutes de la mer, mais je suis quand même en pleine cambrousse. Moi, tous les matins quand je vais à l'école, il y a Bambi qui traverse la route à 7h du matin. On n'a pas ça à plein centre-ville de Rennes ni de Lorient. Mais après, moi, j'arrive à Lorient donc en 3e à 14 ans. Et là, c'est la découverte du monde, quoi. Comment tu voulais des petites anecdotes, c'est très simple. C'est déjà voir qu'il y a beaucoup plus de femmes que je ne le pensais sur Terre. que les possibilités de vie sont immenses parce qu'en fait, des infrastructures...
Oh, j'ai cru que tu allais dire autre chose.
Non, tout sûr. J'allais dire qu'il voilà, y a des infrastructures à Lorient qu'il n'y a pas à Gestel. Par exemple, un cinéma. Moi, je sais que quand j'étais gamin, on allait à Lorient pratiquement que pour la culture. C'est aller au théâtre, aller au cinéma, le festival interceltique, bien évidemment. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Mais un détail marquant de l'enfance, c'est une très bonne question.
Ou de l'adolescence, d'ailleurs.
Ou de l'adolescence, ouais.
Comme tu veux.
Quand j'étais enfant, du coup, j'étais plus en bord de mer. Donc ça va être du surf à fond, énormément de sport. Et pour en revenir à Lorient, donc ce sera plus à l'adolescence. Et Lorient,
Le parc Jules Ferry ? Non. Pardon.
Ça peut être le parc Jules Ferry, mais non. Oui, voilà. Ouais. Mes premiers, en vrai de vrai, je vais dire la vérité, hein, mes premiers rapports avec le centre-ville de Lorient, c'est fumer des ouinges, écouter de la musique et aller mater des films au cinéma avec plein de potes. Voilà, tout simplement.
Parfait.
Et faire beaucoup la fête.
Restons sur le même principe que la première partie de l'émission et laissons-nous porter par une nouvelle mélodie sélectionnée par moi cette fois-ci. Je vous laisse découvrir, chers auditeurs, comme je te laisse découvrir toi, Jules, qui j'ai choisi car le mystère reste entier pour le moment. Laissons-nous emporter par cette voix que tu vas reconnaître très vite et qui va être comme un clin d'œil si tu as bonne mémoire.
Chacun de mes blessures blesse plus longtemps que les chagrins d'amour, les chantent moins souvent. Chacun de mes blessures laisse un coup de rien, on perd un frère. Le monde s'éteint et perdre un frère, c'est perdre du sang.
Et oui, nous venons d'écouter Chagrin d'amis, tiré du dernier album de Clara Luciani, Mon sang, sorti en 2024. Figure-toi que cette version a à peine une semaine, car il s'agit d'un live du 4 décembre au Zénith de Pau. Et alors moi, première question, est-ce que tu saisis le clin d'œil ? Et je crois que non. Non.
Non, j'avoue.
Mais on va en parler après. Ouais. Et alors, est-ce que cette chanson te procure une émotion en particulier ?
Ouais, carrément. Déjà, elle fait beaucoup de sens avec la photo. Maintenant que tu sais que c'est pas moi sur la photo.
En effet.
Bien sûr, ouais, elle fait carrément beaucoup de sens. Voilà. J'aurais même cité un autre son pour. Voilà, qui. Si y a Ben PLG, ça parlera peut-être plus à certains de nos auditeurs, qui est un rappeur. Voilà, genre le mec qui est au son. qui, dans un de ses sons nommé Dire je t'aime, parle à peu près de la même chose.
Et voilà. Oui, mais moi je te l'ai choisi parce que je savais que tu l'avais dans ta playlist. Ah. On avait plaisanté là-dessus cet été quand on s'est rencontrés.
D'accord.
Et cela m'amène justement à tes goûts musicaux, car j'ai l'impression que tu écoutes peu de femmes ou surtout des hommes. Mais peut-être que je me trompe. Donc est-ce que je me trompe? Et pourquoi Luciani, Clara Luciani est dans ta sélection musicale. Qu'est-ce qu'elle est pour toi?
C'est une artiste.
Non, mais est-ce que tu écoutes beaucoup de femmes déjà?
Alors, j'écoute beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça, la réponse est évidente. Non, j'écoute pas beaucoup de femmes, ça c'est sûr, parce que j'écoute déjà énormément de rap français et malheureusement elles sont sous-représentées dans le rap français. J'ai la chance depuis, on va dire, un an d'avoir rencontré deux rappeuses qui sont vraiment très 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 fortes et que du coup j'écoute régulièrement, notamment une que je partage régulièrement sur les réseaux sociaux. Qu'on peut trouver sur Un Beau Moment aux côtés de Kianik aujourd'hui et Nova. Est-ce que après j'écoute plus dans hormis rap, donc dans la pop culture et tout ça, moi petit, je crie, je chante à tue-tête Adele, Rihanna. Enfin, il y a énormément de femmes dans la culture musicale, notamment américaine, que j'écoute énormément. Sur la scène française, beaucoup moins. Je vais citer Anne Sylvestre et bien évidemment Edith Piaf. Okay. Voilà. Ouais. Sinon, j'ai aucune autre femme, aussi triste que ça puisse être, qui me vienne à l'idée.
Et Clara Luciani alors? Et
Clara Luciani, ça fait très peu de temps en fait, ça fait quelques mois. Je connais bien évidemment cette artiste. J'ai dû la voir en fait dans une émission, un podcast ou une vidéo YouTube. Et je l'ai trouvée déjà très jolie et hyper intéressante. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais écouter voilà, c'est ce qu'elle propose. Sauf que moi, quand j'écoute un artiste et que je le découvre, j'écoute tout ce qu'il fait.
Ça, je l'avais compris.
Voilà, parce que je suis vraiment, ouais, une fois de plus, très curieux. Et même s'il y a des sons que j'aime pas, et voilà, bah, j'écoute jusqu'au bout. Et je vais écouter l'entièreté d'un album, des fois c'est très long, mais voilà, parce que je sais que quand un artiste propose par exemple 20 chansons sur un album, je me dis, bah, mec, il y a forcément un son, puis si c'est pas le cas c'est pas grave, mais il y a forcément un son qui va te plaire. Et donc dans ma playlist je dois avoir 2-3 sons de Clara Luciani,
dont celle-ci
voilà. Parce que tout simplement c'est elle qui m'a fait le plus accrocher. Mais il y en a une autre aussi où elle parle de sa fille qui vient de naître dans son dernier album. Mais voilà, c'est pas quelqu'un que je connais voilà, sur le bout des doigts comme Taizy, je pourrais, oui, raconter sa vie, quoi.
Okay. Non, mais elle fait quand même partie de ta playlist. Il y a 2-3 morceaux, fait, comme tu, voilà, l'as dit. Voilà. La grenade aussi, je sais qu'elle y est.
Right.
J'ai une bonne mémoire. Et tu t'en doutes avec cette chanson. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de l'amitié. Tu as commencé à le faire en tout début. Ça se confirme, c'est quelque chose d'essentiel dans ta vie. Première chose, quelle définition tu donnerais à ce terme, amitié, pour toi? Ta propre définition de l'amitié. Et là, je sens que... T'aimes pas trop la question, si?
Ah, si, j'adore, au contraire.
Mais elle est pas facile.
Mais elle est pas facile. Et puis j'ai pas envie de dire des conneries. La réponse facile et brève, c'est les amis, c'est la famille qu'on se crée soi-même. Voilà, on l'a tous déjà entendu. La vraie amitié pour moi, ouais, c'est, je sais pas, c'est quand t'arrives à être 100% toi-même avec quelqu'un. Que la personne en face de toi, elle est 100% elle-même, en tout cas le plus possible.
J'allais faire une blague, mais quand t'es au popo. Pardon.
Voilà. L'amitié commence à partir du moment où tu chies, pardon, la porte ouverte. Non, non, voilà, disons le terme.
Je suis désolée, t'étais hyper sérieux, j'ai pas pu m'empêcher.
Mais c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien.
Non, mais je vois ce que tu veux dire. Quand t'arrives. Oui, oui. Quand tu touches cette chose-là du doigt de... Oh merde, oh non.
Non, je vais reprendre.
Non, on va reprendre.
J'en étais.
Ok, voilà.
L'amitié, ça se résume par, voilà, quand t'arrives à être toi-même sans complexe, parce que tu sais que le mec, il t'aime. En fait, l'amitié, c'est de l'amour. Non, j'ai dernière connerie. Ça veut dire sans sexe, mais bon, il y a des,
oui,
gens qui font l'amour
oui,
en tant qu'amis.
Oui, amis. Oui, oui, mais il y a quand même ce côté, voilà, un peu platonique. C'est quand même l'amour. Un vrai amour, mais sans le sexe, quand même.
Moi, je pense que je suis plus amoureux de mes potes que des meufs avec qui je suis sorti. Ils sont toujours là. Voilà, je vais donner un... Il y a un mot que j'aime profondément, et c'est la... C'est pas la... Il y a la fraternité aussi, mais... Ouais, c'est ça, l'amitié, la fraternité, pour moi, ça rime aussi avec la fidélité. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Dans l'amitié, il y a de la fidélité, et pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a plus de beau au monde dans les relations humaines, c'est la fidélité. Quand je laisse mes clés d'appartement à un pote, qui est 5h du matin, qui me dit qu'il va foutre le bordel chez moi, et que je l'ai droit dans les yeux, je lui donne mes clés, et je lui dis même pas fais gaffe, parce que j'ai totalement confiance en lui, bah, je peux me barrer à l'autre bout du monde, je sais que ça va bien se passer. Voilà. Ça pour moi, ça, c'est la fidélité. Et je l'ai retrouvé que avec mes amis. Pour aller plus loin, je ne l'ai pas trouvé dans l'amour auprès des femmes, et je l'ai même perdu auprès de ma famille il y a quelques années. Voilà, on essaie de recoller les morceaux, mais c'est pas facile. Alors que les amis, certains sont partis, même beaucoup, mais il y en a qui sont là, qui sont très présents dans ma vie. Et sans eux, la vie aurait un goût beaucoup plus amer, morose, voilà, tout ce qu'on peut dire.
Ce serait un peu moins négatif. Riche, quoi. Ouais.
Voilà.
Ouais. Et alors moi, j'allais te demander si t'étais du genre très entouré ou pas tant que ça. Alors très entouré, tu l'as dit en fait tout le long de l'émission. Mais est-ce que t'as quand même aussi des moments de solitude parfois ?
Ouais, moi j'adore être seul. Ouais, ouais, carrément. Étant donné que j'ai beaucoup voyagé par rapport au compagnonnage, voilà, j'aime être seul. Ça, c'est trop facile, je kiffe trop. Être à l'autre bout de la France. Je peux partir en week-end ou en vacances tout seul. Ça peut choquer plus d'un. Mais par contre, j'ai totalement besoin d'être quand je suis seul. En fait, j'aime être seul, mais en même temps, j'aime être seul aussi dans des endroits où il y a énormément de monde.
Oui.
Je suis allé faire tout seul, par exemple, le festival du Dubcamp au-dessus de Nantes. Je suis allé le faire tout seul en tant que bénévole. Je savais que j'avais croisé des copains là-bas, mais j'y suis allé tout seul et c'était génial, quoi. Il y avait des dizaines de milliers de personnes autour de moi.
C'est ça,
pourtant,
t'étais quand même dans
seul.
Une foule, quoi. Ouais,
voilà. Mais ouais. J'aime aussi être tout seul chez moi parce que c'est le moment où tu te ressens sur toi-même et tu fais des choses intelligentes, généralement.
Oui, c'est vrai. Excusez-moi, un peu de silence, mais je réfléchis en même temps à ce
mais
que
il
tu
faut,
dis.
Il faut
oui.
Du silence.
Et pour finir, cette chanson aborde un thème peu abordé en général, contrairement au chagrin d'amour et aux ruptures amoureuses. Là, il est question de chagrin d'amis, de rupture amicale. En as-tu déjà vécu ? Et si oui, comment les as-tu vécues ou les vis-tu ? Comment on s'en dépatouille de ça ? Parce que ça nous arrive à tous et à toutes.
Alors, je vais répondre à l'envers.
Ouais,
comment
je suis désolée, il y a
quatre
questions.
De ça, c'est OK. comment se dépatouiller de ça en allant chercher d'autres amis, déjà. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je me fais tatouer lundi soir. C'est « Tout me fait rire ». Et c'est un tatouage qui représente le fait qu'on a vécu des choses difficiles dans la vie et qu'aujourd'hui, quand on nous raconte un problème ou quand on vit quelque chose de difficile, bah, en fait, on en rit et on se dit, mais mec, c'est bon. On a vu bien plus hardcore, on a vécu bien plus dur. Donc, voilà, pour répondre à tes questions, voilà, mais des amis me l'ont mis à l'envers, que ce soit économiquement, que ce soit amoureusement ou plein de choses. Moi, il y a des mecs, je pensais qu'on était. Enfin, voilà, que c'était la famille. Et parce qu'ils ont rencontré ma famille. Et ces gens-là. Aujourd'hui, ils me disent même pas bonjour, si ce n'est qu'ils essayent de me faire des crasses. Et moi, du coup, j'en rigole fortement. Parce que moi, je prends le temps de pardonner. Parce que j'essaie de comprendre, j'essaie d'être empathique, de me mettre à leur place. Voilà. Comment répondre à ta question aussi, c'est très simple. Quand un ami me fait une crasse, au début, bah, y a de la colère. Après, de la tristesse. Bon, en fait, comme pour tout, quoi. Et puis après, on finit par souffler et se dire, mec, c'est pas grave, il y a bien pire dans la vie. Toi, il n'y a pas des bombes au-dessus de ta gueule, donc ferme-la, arrête de te plaindre, va de l'avant. Et si un tel sort de ta vie, bah, et bah il sort de ta vie, c'est pas grave. Des êtres humains, il y en a bientôt 10 milliards sur Terre, on est large.
Bon, on va presque finir là-dessus. Avant de clore notre chouette rendez-vous avec ta vie assez bouillonnante, je te laisse quelques minutes pour nous lire un texte que tu as choisi pour les auditeuristes de l'étrange beauté du quotidien. Et je crois que c'est un texte que tu écris, car tu ne nous l'as pas dit, mais tu écris aussi.
Voilà, à côté de toutes mes études, j'aime bien faire de l'autodidacte, même énormément. Et il y a un truc que je fais en autodidacte, c'est écrire de la poésie, de la politique, plein de choses, un peu de rap parce que j'en suis passionné. Et du coup, je voulais vous partager un de mes derniers écrits qui est dédié à ma maman. Maman, je vous écris que j'ai pris la décision de partir. Ce n'est pas pour fuir, petit Breton a décidé d'agir. Ce n'est pas pour se le prouver à lui-même, ni aussi à tous les gens qu'il aime. Grand monde sait qu'il en est capable. Donc c'est pour tous ceux qui n'y croient pas, qui ne voient pas en moi un homme sain et de bonne foi, prêchant le bien et l'honnête loi, futur écrivain et homme de droit. Je me la pète un peu, pardon. Je penserai à tout le monde, pas qu'au mien, de notre union ils sont un frein, toutes les règles sont en frein. Désolé maman, je m'éparpille. Ce texte devait être destiné, mais j'ai tellement de choses à dire qu'il m'est difficile de t'estimer. Par les atrocités de ce monde, mon amour est déchiré. Comment peut-on aimer à mort lorsque des milliers d'êtres sont décimés ? Je t'assure que je t'aime fort et que tout est pardonné, mais je veux sauver la terre, pas seulement la mère qu'on m'a donnée. J'ai des fois l'impression que pour changer votre mentalité, il est trop tard. Avec tout ce qu'il s'est passé entre nous, je ne suis pas sûr de pouvoir modifier mon regard. Et puis, faute à mes émotions qui sont tellement aléatoires, comment pourrais-je porter sénitude et tranquillité à votre égard ? En écrivant ces lignes, je comprends enfin. C'est vous qui m'avez mis au monde, donc ce n'est pas à moi d'y mettre fin. Cette querelle entre nous ne s'arrêtera pas si ce n'est pas de vous que ça vient. La seule chose que je peux faire alors, c'est de mettre de l'eau dans mon vin. La justice, par son jugement, m'a un tant soit peu de ma famille ostracisée. Elle ne se rend pas compte que la situation, elle l'a juste opacifiée. De mes conneries, j'en suis pas si fier, il me semble pourtant avoir été ce jour-là plutôt pacifiste, mais je mettrai mon ego de côté, histoire de vous revoir en bons termes, avant que l'un de nous finisse au cimetière. Cimetière, de tout ce que vous m'avez fait, quand j'étais bambin, je vous l'infligeais, vous seriez sur civière. Mais maman, grâce à ton éducation et certainement pas à tes prières, je resterai pieux et ne me lancerai pas dans les bras de Lucifer. Dorénavant, devant vous, je paraîtrai sage. Car c'est derrière le micro que je vais exprimer ma rage. Putain, je pensais pas que ces pensées traumatisantes dans le passé rimèrent et qu'aujourd'hui, en les relisant, j'en ris même. Bon, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps.
C'est déjà pas mal, je pense. Merci pour ta sincérité. C'est assez troublant, je dois dire. Je ne m'attendais pas à cette sincérité-là, après toute la rigolade, tout le moment joyeux qu'on a eu, c'est ouf. Mais donc oui, un grand merci à toi Jules pour ce moment qui a aussi été très joyeux et tout en simplicité, tourbillonnant j'ai envie de dire.
Merci.
Je remercie Thibaut pour la création du générique et Isa pour avoir prêté sa voix. Merci aussi à Lucas, bénévole de Syllab, à la technique de cette émission pour la première fois. Et nous, nous nous donnons rendez-vous très vite pour une autre étrange histoire de vie à découvrir. Au revoir Jules.
Au revoir à tous les auditeurs et au revoir Eva.
Et je vous dis au revoir, chers auditeurices.